Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de montrer comment les concepts, encore un peu abstraits de la vidéo précédente, s'incarnent dans une librairie d'interface graphique particulière. En l'occurrence, la librairie Qt, que je vais utiliser pour dérouler un exemple lors duquel je vais construire une calculatrice semblable à celle de la vidéo précédente. Et je terminerai en disant un mot de l'outil Qt Designer. La librairie Qt, certains disent Qt, c'est une librairie qui a l'énorme avantage d'être cross-platform. Cross-platform, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser quel que soit votre système d'exploitation. C'est une librairie qui est écrite en C++, mais pour laquelle il existe de nombreux bindings. Des bindings étant une petite surcouche logicielle qui vous permet d'accéder à du code écrit dans un autre langage. Donc là, en l'occurrence, l'exemple que je vais dérouler va être écrit intégralement en Python, bien que la librairie elle-même soit écrite en C++. Quand implicitement, ça va passer par le bindings entre Python et C++. Un point de terminologie avant d'aller plus loin. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté la terminologie classique, qui est de parler de callback et d'événement. Qt utilise des termes différents, les termes de slot et de signal. Considérez simplement que ce sont des synonymes. Simplement, voilà, Qt, pour des raisons que j'ignore, utilise une terminologie différente, mais qui se mappe à la terminologie classique. Dans la suite de cette vidéo, je vais m'intéresser à la construction d'une interface graphique. Pour une petite calculatrice comme celle-ci, je ne vais pas du tout m'intéresser aux aspects esthétiques, de couleurs, de placement, etc. Simplement à l'utilisation de la librairie, à la dynamique liée aux slots et aux signaux. La librairie Qt me donne un certain nombre de widgets de base. Widget étant le terme utilisé par Qt pour parler des composants. Donc vous avez un widget extrêmement générique qui est QWidget. Et puis les deux widgets qui vont m'être le plus utile dans le cas de cet exemple, ça va être PushButton, qui est simplement un bouton sur lequel je peux appuyer, et Label, qui permet d'afficher du texte sans que l'utilisateur puisse le modifier. Vous avez évidemment des dizaines et des dizaines d'autres composants, par exemple pour éditer du texte ou charger et sauver des fichiers. Ça n'a aucun intérêt que je les présente tous, la documentation est très bien faite. Je me concentre sur les composants dont j'ai besoin pour ma calculatrice. Pour les signaux, on va procéder de la manière générique suivante. Pour enregistrer un callback, on va avoir un appel comme ça en trois parties. Vous avez ici l'instance de widget, ici en toute hypothèse un bouton. Vous avez ici le signal, donc encore une fois l'événement, par exemple l'utilisateur a cliqué sur le bouton. Et vous avez la méthode connect à laquelle finalement vous passez votre callback étant une fonction ou une méthode Python. Par exemple, comme on va le voir dans la suite de cet exemple, si je veux enregistrer un callback quand l'utilisateur a cliqué sur un bouton, je vais écrire cette ligne-là. Sur mon instance, je fais référence à clicked, qui est l'événement ou le signal qui m'intéresse, et j'appelle connect en passant le callback. Les boutons ont tout un tas d'événements ou de signaux associés. Quand vous cliquez, c'est-à-dire appuyer et relâcher, mais vous avez aussi des événements plus particuliers quand l'utilisateur appuie ou quand l'utilisateur relâche. De la même manière, si vous vous intéressez à d'autres composants, comme une zone de texte, évidemment, vous allez avoir d'autres types d'événements et vous pouvez être notifié si l'utilisateur change le texte du composant. Voilà comment je vais commencer à écrire ma calculatrice à l'aide de PyQt. J'ai des imports qui sont relativement peu intéressants, mais je commence à construire par cette ligne un nouveau composant qui va être la fenêtre qui va contenir ma calculatrice. Et vous voyez que je fais ça simplement en héritant du composant générique. Dans mon constructeur, j'appelle évidemment le constructeur parent, comme toujours. Je vais déléguer la création de l'interface graphique à une méthode que j'ai présentée dans le transparent précédent. Et puis, je vais définir la taille de ma fenêtre, passant largeur et hauteur. Avant de construire à proprement parler mon interface graphique, je me dote ici d'une méthode utilitaire qui va me permettre d'ajouter un bouton. Et vous voyez la manière dont je procède. Je construis une instance de CubePushButton, qui est évidemment une classe de Qt. Je lui passe le texte que je souhaite voir figurer sur le bouton. J'ajoute mon bouton à la grille. On va voir le détail sur le transparent suivant. Et dernière étape, j'enregistre un callback passé en paramètre, de telle sorte que celui-ci soit appelé lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton. Avant de montrer le code de construction effectivement de l'interface, deux mots sur les layouts. Vous avez tout un tas de layouts prédéfinis par la librairie. HBox, ça va simplement être un layout qui va vous permettre d'ajouter les composants de manière horizontale. C'est-à-dire que le premier que vous allez ajouter va se trouver ici, le deuxième comme ceci, etc. etc. VBox layout, c'est tout simplement le dual. Premier composant sera en haut et puis vous ajoutez des composants qui vont se répartir verticalement dans votre interface. Et grid layout, ça va être le centre de mon interface calculatrice. Ça vous permet tout simplement sur la surface de diviser en un certain nombre de lignes et de colonnes. Et la manière dont on va procéder, on va le voir, c'est de considérer que le layout, au fond, est un composant intermédiaire de votre interface. Vous allez créer une instance et sur cette instance, vous allez ajouter les widgets qui vous intéressent. Donc, dans mes exemples, les widgets que j'ajouterai sont ceux-ci. Et comme on va le voir dans le transparent précédent, je vais pouvoir ajouter dans les différentes cases de ma grille. Donc, toujours dans ma classe Calculator, voilà le cœur de la création de l'interface. Je change le titre de ma fenêtre. J'initialise le résultat à 0 en créant un QLabel pour afficher le texte 0. Ensuite, ce que vous voyez, c'est que je crée une instance de grid layout et je vais appeler ma méthode utilitaire addButton qu'on a vu sur le transparent précédent sur chacun des boutons. Je n'ai pas tout fait figurer ici pour gagner de la place, mais je vais appeler cette méthode utilitaire sur chacun de mes boutons avec le texte affiché sur le bouton. Et puis, la méthode à appeler, le callback à appeler, lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton. Ce que vous voyez sur les lignes que j'ai sélectionnées ici, c'est que pour le bouton AC, je vais appeler une méthode reset qui va être dédiée à ce bouton-là. Mais pour 7, pour le chiffre 7, je vais utiliser une méthode que j'appelle clickDigit. Et je vais utiliser la même méthode, le même callback pour tous mes chiffres de 0 à 9. Dernière étape, je construis un autre layout, cette fois-ci vertical, et j'ajoute successivement le composant result et le composant grille. Donc ça me garantit que je vais avoir le result en haut et ma grille avec tous les boutons en dessous. Et in fine, ce layout vertical qui encore une fois contient le résultat et la grille, je l'assigne à self pour dire que c'est que mon composant ou fond se réduit à ce layout. Dernière partie du code. Voilà à quoi ressemblent mes callbacks. Vous voyez que ce sont des méthodes Python comme les autres, il n'y a pas de nouvelle syntaxe à apprendre. Je vous ai dit que pour reset, j'avais choisi d'utiliser une méthode dédiée, mais que pour tous les chiffres, j'utilisais la même méthode. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que quand vous êtes à l'intérieur d'un callback, vous pouvez, grâce à self.sender, récupérer l'instance associée à l'événement. Donc là, en l'occurrence, mon événement, c'est l'utilisateur à cliquer. S'il clique sur set, ce que je récupérerai par self.sender, c'est l'instance de bouton qui correspond à set. Et une fois que j'ai cette instance de bouton, je peux appeler la méthode texte sur mon bouton pour obtenir la chaîne de caractères correspondante. Et donc, en toute hypothèse, ici, je peux, dans mon traitement, tirer parti du chiffre sur lequel l'utilisateur a cliqué pour agir en conséquence. Dernière partie du code. J'ai fini mon composant calculator. Maintenant, regardons comment l'utiliser. Ça va se passer essentiellement en trois temps. Je construis une instance de QApplication en passant les arguments de la ligne de commande. Ça va d'une certaine manière initialiser la librairie, tout mettre en branle du côté de Qt. Ensuite, j'instancie ma classe calculator. Par défaut, la fenêtre est invisible, donc j'appelle show pour m'assurer qu'elle est visible. Et la dernière étape de mon script Python, c'est d'appeler la méthode exec sur l'instance de QApplication. Et cette méthode exec, c'est tout simplement la boucle d'événements dont j'ai parlé dans le transparent précédent. Quand s'exécute cette ligne, la boucle d'événements se déclenche et comme je l'ai dit précédemment, la librairie va être à l'écoute de tout ce que fait l'utilisateur et en fonction de ses actions, créer les événements correspondants et chercher les callbacks à appeler. Voilà un exemple complet qui vous permet de construire une petite interface graphique, une fenêtre avec un certain nombre de composants. Je termine cette vidéo en évoquant l'outil qui s'appelle Qt Designer. L'idée de Qt Designer, c'est de vous permettre de créer votre interface graphique à l'aide d'un outil qu'on appelle WYSIWYG. WYSIWYG, c'est un acronyme pour « What you see is what you get ». Vous allez construire interactivement votre interface graphique, l'enregistrer dans un fichier, en l'occurrence un fichier UI, et à partir de ce fichier UI, vous allez pouvoir générer du code Python. Voilà à quoi ça va ressembler. Vous allez construire votre interface graphique ici dans la fenêtre centrale. Ce que vous avez ici sur la gauche, c'est la liste de tous les composants que vous pouvez utiliser. Et il vous suffit, par glisser, déposer, d'ajouter des composants à votre fenêtre principale. Et ce que vous avez ici, ce sont plutôt les attributs du composant que vous sélectionnez dans la partie centrale. Donc ici, vous pouvez choisir le texte de votre bouton, la position exacte de votre slider, la date exacte de ce composant-là, etc., etc. Tout ça, interactivement, par cet outil Qt Designer. Comme je l'ai dit sur le transparent précédent, une fois que vous avez fini de construire votre interface, vous allez pouvoir la sauver sous la forme d'un fichier .ui. Et à partir de ce fichier .ui, vous allez pouvoir générer le code Python correspondant à la construction de cette interface. Et donc dans cet exemple, parfaitement inintéressant parce que j'ai ajouté les composants de manière aléatoire, vous allez demander à l'outil de vous générer du code et vous allez obtenir quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet outil, d'une part, et pourquoi est-ce que je vous en parle à la fin? Je vous en parle parce que construire une interface graphique, ça peut être relativement rébarbatif si elle est complexe. D'accord, vous allez devoir instancier chaque composant, le placer dans votre layout, etc., etc. Ça peut vite devenir rébarbatif. Donc là, vous avez une alternative qui est un peu plus agréable à utiliser, qui peut vous rendre un peu plus productif. Pourquoi est-ce que je vous le présente qu'à la fin, cet outil-là? D'abord parce que ça n'est pas toujours adapté. Si vous avez des interfaces très dynamiques, par exemple, où le nombre de boutons varie en fonction des décisions de l'utilisateur, ça peut être plus simple d'écrire en Python. Et surtout parce que je pense que les concepts présentés précédemment sont importants à connaître et qu'au fond, il est très difficile de tirer pleinement parti de Qt Designer si vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière. Mais assez clairement, pour un grand nombre d'interfaces, en termes de productivité, vous vous en sortirez mieux si vous utilisez Qt Designer pour construire de manière interactive votre interface graphique avant de générer le code Python correspondant.